France Culture.
Et les midis, c'est reparti. Bienvenue à celles qui nous rejoignent. À 13h, le comédien François Civil sera mon invité. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie. Les icônes des 70s et de la contre-culture ne vieillissent pas toutes très bien. Une enquête qui vient de paraître revient sur l'auteur des best-sellers, Carlos Castaneda, qui est devenu gourou la seconde moitié de sa vie, reclus à Los Angeles avec plusieurs femmes qui, elles aussi, ont disparu. Un quart de siècle plus tard, un corps ressurgit dans la Death Valley et c'est la journaliste française Anaïs Renevier qui tente de lever le mystère qui entoure toujours l'auteur, la chute de Carlos Castaneda. C'est le dossier du Point Culture du jour. Anaïs Renevier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous signez pour le magazine Society une enquête intitulée « Le gourou et ses femmes disparues », enquête qui revient sur l'auteur Carlos Castaneda, que l'on connaît surtout pour son best-seller « L'herbe du diable et la petite fumée », livre culte hein, dans le monde entier pour toute une génération. Est-ce que vous pourriez, pour commencer cet entretien, en quelques mots, nous présenter Castaneda et ce fameux livre ?
Carlos Castaneda est né au Pérou et il a émigré aux États-Unis en Californie dans les années 50. Et dans les années 60, il s'inscrit en anthropologie à l'Université de Californie à Los Angeles, en anthropologie. Et il propose à ses professeurs une enquête sur un certain Don Juan Matus en immersion. Don Juan Matus, c'est un sorcier d'une tribu Yaqui qui est établie entre le Mexique et l'Arizona. Et ça va être le point de départ de sa recherche de thèse et de son œuvre « L'herbe du diable et la petite fumée ».
Mais ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que ce livre a été étudié hein, dans le cercle universitaire pendant des années, dans des études d'ethnologie ou d'anthropologie. Mais très vite, en fait, on s'est rendu compte que l'authenticité de ce fameux Don Juan dont vous parlez, qui est le héros du livre, en fait, tombe complètement. Est-ce qu'on peut dire, selon vous, que ce livre, c'est plutôt un montage littéraire qu'un rapport de terrain ? Qu'est-ce qu'il a d'anthropologique, ce livre, en fait ?
Oui, alors au moment où il a commencé ses recherches, c'était une petite révolution parce que c'était une expérience différente d'aborder l'anthropologie puisque lui-même allait être initié aux pratiques de ce sorcier Don Juan. Mais il y a très vite des doutes qui sont émis sur la véracité de son œuvre et l'existence de Don Juan Matus que au final personne ne rencontrera, n'arrivera à retrouver, à rencontrer. Des doutes parce que dans cette région, ils n'utilisaient pas la plante parce qu'il fait des expériences psychédéliques avec lui, mais dans cette région et avec cette tribu, ils n'utilisent pas cette plante parce que ce chaman qui vient d'une région rurale du Mexique parle comme un académicien. Et donc, après sa parution et le succès qu'il a eu, il y a des chercheurs et des journalistes qui ont essayé de débunker, comme on dit aujourd'hui, tout ça. Et il s'est avéré que c'était a priori un des plus grands mythomanes littéraires et universitaires du XXe siècle.
Alors, il en écrit d'autres, hein, de livres, Castaneda. Il en vend des millions. Puis, il se retire du monde au début des années 70. Alors, qu'est-ce qu'il devient à partir de ce moment-là ?
Oui, alors à partir du moment où on prouve qu'il a menti sur son œuvre, ça l'empêche pas de continuer à publier et de vendre. Hein. Il a beaucoup de lecteurs et de suiveurs. Et à partir des années 70, il achète une maison à Los Angeles et il vit reclus. C'est un homme très mystérieux hein, qui a toujours été entouré d'une aura de mystère. Et il vit reclus avec plusieurs femmes qu'il appelle ses sorcières dans une maison de Los Angeles pendant 2 décennies. Et à partir de là, il vend des formations d'une méthode qui s'appelle Tensegriti, qui est un mélange de spiritualité, d'art martial et d'exercice physique, et qui s'avère en fait être le départ d'un mouvement sectaire. C'est quelque chose qu'on connaît moins de lui, c'est qu'après son livre, il a été en quelque sorte gourou d'une secte.
Alors, vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consistait cette secte et en quoi Castaneda était devenu un gourou ?
Oui, bien sûr. Donc il y a plusieurs choses. Il y a cette méthode soi-disant héritée de chamans de génération en génération qui vend un cercle de fidèles. Et ensuite, il y a le fait qu'il vivait avec plusieurs femmes qui sont des femmes qui avaient fait des études universitaires mais qui étaient assez vulnérables et sur lesquelles il avait une emprise psychologique, financière, sexuelle. Et donc il vivait avec elles en contrôlant complètement leur vie. C'était quelqu'un de très charmeur et très manipulateur.
Alors, Castaneda meurt en 1998 et avec lui, 5 femmes, les femmes dont vous parlez, qui vivaient autour de lui, dont sa fille adoptive, qui était aussi sa maîtresse, je crois. Est-ce qu'on sait ce qu'elles sont devenues, ces femmes-là? Est-ce qu'on peut parler de suicide collectif, de disparition volontaire ou de meurtre, selon vous?
C'était l'objet de l'enquête, c'est que le lendemain de la mort de Castaneda, ces 5 femmes qui étaient parmi les plus proches ont disparu. Au sein de la secte, plusieurs anciens adeptes à qui j'ai parlé pensent plutôt qu'il s'agit d'un suicide collectif pour le rejoindre. Mais récemment, plusieurs enquêtes ont mis au jour le fait qu'elles étaient héritières de ses droits d'auteur et d'une partie de l'entreprise Clear Green qu'il avait fondée. Et donc il y a aussi cette piste de l'argent, mais en fait il n'y a jamais eu d'enquête approfondie parce que c'était des femmes qui étaient isolées, qui avaient changé d'identité et la police n'a jamais pris ça au sérieux. Il y en a une d'elles qui a été retrouvée morte dans la Death Valley quelques semaines après la mort de Carlos Castaneda, mais les autres ont disparu et on ne sait pas ce qui leur est arrivé.
Vous parliez de brouillard et de mystère, mais il faut dire que dans cette secte, ils prônaient, alors peut-être pas une vie éternelle, mais en tout cas une vie où la mort n'existait pas. Or, quand ils meurent, il y a aussi un problème de communication, on ne sait pas quoi dire, quoi.
Oui, effectivement, lui, ce qu'il disait, c'est que quand il avait suivi les enseignements du chaman Don Juan Matus, il avait assisté à la mort et la renaissance du chaman, et lui-même était mort et avait en quelque sorte ressuscité, donc il prônait la vie éternelle, et c'était ça aussi qui martelait à ces femmes, qu'elles vivraient éternellement. Et au moment où il est mort, alors lui, il est mort d'un cancer du foie, au moment où il est mort, pendant 2 mois, personne n'a été au courant de sa mort parce que justement il fallait pas annoncer que le nagual, le sorcier, le chaman à la tête de cette secte était mort comme un humain lambda.
Mais ce qui a aussi fait qu'on s'est pas intéressé au sort de ces femmes qui elles aussi avaient disparu?
Oui, exactement, parce que on s'est dit, comme elles étaient sous sa coupe et que elles avaient envisagé de disparaître au moment où il disparaîtrait pour le rejoindre dans cette espèce d'éternel qu'il promettait. Voilà, il y a pas forcément eu d'enquête rapide. Même après, il a fallu qu'il y ait un cadavre qui ressurgisse pour qu'il y ait quelques questions qui soient posées. Mais aujourd'hui, on est plus de 20 ans après, quasiment 30 ans, et les familles de ces femmes n'ont toujours pas de réponse.
Alors pourquoi vous avez choisi, Anaïs Renevier, de vous intéresser à cette histoire et d'enquêter sur ce sujet-là aujourd'hui en 2025? Vous l'avez dit, on est longtemps après les faits.
Oui, alors déjà parce que comme tout le monde, je connais, comme beaucoup de gens, je connais l'œuvre de Castaneda, mais je ne savais pas ce qui était arrivé après, à partir du moment où il était un petit peu sorti de la vie publique et qu'il avait vécu reclus. Donc déjà, je trouve que c'est une histoire assez folle. Et d'ailleurs, il y a encore aujourd'hui des anciens adeptes qui essayent de dire il faut qu'on sache que c'était pas que un écrivain peu importe le niveau de mythomanie de ses œuvres, il faut qu'on sache que c'était quelqu'un qui a manipulé et qui était un gourou. Et puis, il y avait vraiment un mystère autour de ces disparitions de femmes. Et il y a des éléments d'enquête par un journaliste américain qui ont été mis au jour il y a un an. Donc, ça a fait un petit peu remonter l'affaire dans les médias américains, mais malheureusement pas auprès des autorités et des enquêteurs.
Il y a une biographie qui est en train d'être écrite ou qui va être publiée bientôt, je crois. Vous la citez dans votre article.
Oui, par un auteur qui s'appelle Marshall et qui a passé 3 décennies quasiment à enquêter sur le sujet.
Bien, merci. Je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à votre article qui est paru dans le journal Society, le gourou et ses femmes disparues. Merci beaucoup, Anaïs Renevier.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, un studio pour former au stop motion va ouvrir à Paris.
Oui, le cinéaste mexicain Guillermo del Toro a annoncé sa volonté d'ouvrir, en collaboration avec l'École des Gobelins à Paris, un studio de formation à l'art du stop motion. Alors c'est cette technique que l'on appelle en français animation en volume, qui consiste à faire un film d'animation image par image à partir d'objets immobiles. Une manière de faire des films qui se marginalisent à une époque où la majorité de l'animation se fait via le numérique. Pourtant, cet art n'est pas mort, comme le rappelle Guillermo del Toro, qui a lui-même réalisé en 2022 son film Pinocchio en utilisant le stop motion. Ce projet inédit sera notamment financé par Netflix. Les détails seront dévoilés dans les prochains mois.
Et pour finir, Marie, un manuscrit inédit de 2 pages de l'écrivain Jack Kerouac a été découvert aux États-Unis.
Oui, c'est lors d'une vente aux enchères d'objets ayant appartenu à un ancien chef de la mafia, Paul Castellano, qu'un spécialiste a découvert ce manuscrit daté du 15 avril 1957, intitulé « The Holy Beat and Crazy Next Thing ». Ces 2 pages seraient un chapitre jamais publié de son chef-d'œuvre Sur la route. Au lieu de débuter ainsi dans la version publiée, « J'ai rencontré Néal pas très longtemps après la mort de mon père, je venais de mettre de me remettre d'une grave maladie que je ne raconterai pas en détail, ces deux pages le font commencer autrement. Nous sommes arrivés à Denver avec le réservoir plein d'essence et le Hudson crachant la poussière de 1000 km de désert. Le manuscrit est revendu à New York pour 8 500 $.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.